Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve sur Europe 1 avec nos débatteurs. Nous sommes avec Maxime Liédo, journaliste et essayiste. Bonsoir à vous.
Bonsoir Laurence.
Le titre de votre livre, Génération fracassée.
Toujours.
Quel éditeur ?
Fayard.
Très bien. Éric Diard est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, ravi de vous accueillir. Bruno Bonnel, un de vos confrères parlementaires, est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Député La République En Marche-du-Rhône. Et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Alors, on va parler évidemment de la crise entre la France, l'Australie et les États-Unis relative à ce contrat avec des sous-marins qui a été déchiré. On va écouter Nicolas Sarkozy, l'ancien président, était en dédicace aujourd'hui pour son nouveau livre « Promenade ». Et il a apporté un soutien clair et net à la décision d'Emmanuel Macron de montrer sa colère et de rappeler nos ambassadeurs. Écoutez-le.
Moi, je trouve que le président Macron a eu raison de réagir fermement. Entre alliés, ça ne se fait pas. C'est inadmissible. Quand on est amis, ça donne des droits et ça crée des devoirs. Et agir comme cela, ce n'est pas admissible. Il faudra en tirer les conséquences.
Alors, il faudra en tirer les conséquences, Bruno Bonnel. Lesquelles conséquences ? Qu'est-ce que peut faire la France de plus, à part rappeler ses ambassadeurs et dire qu'elle n'est pas contente ?
Non, mais la diplomatie, ça se fait en deux temps. Ça se fait d'abord montrer les limites de ce qui est acceptable ou pas. C'est la phase dans laquelle on est. Et après, c'est ouvrir le champ. Alors, par exemple, moi, j'ai entendu hier M. Boris Johnson commencer à dire qu'il était l'ami de la France, qu'il ne fallait pas le prendre comme ça, que c'était... Alors, la liaison était...
Indéracinable.
et ce qu'il veut dire... Et il a même dit, à la fin de son interview... Et nous, on n'a jamais dit qu'on n'était pas d'accord que la France vienne rejoindre ce qu'ils en appellent l'OCUS. Mmh. Alors, ça ferait focus, c'est ce que je lui ai dit, avec toutes les interprétations qu'on peut avoir autour de ce mot-là. Mais ça veut dire que on ouvre le champ. Et là-dessus, n'oubliez pas la deuxième partie qu'on oublie, c'est que Emmanuel Macron a fait quelque chose de très important avec le président de l'Inde.
Oui,
Monsieur
ça.
Modi. Non, mais ça veut dire que, comment ça dire ?
On a bien compris que le rapprochement avec l'Inde, il était d'actualité.
Vous voulez jouer à parce que, bon, les enjeux, en dehors de l'aspect perte du business que les Américains essayent de nous faire croire, les vrais enjeux, c'est l'Australie. L'Australie qui est un continent dans lequel il y a stratégiquement de l'espace, des minerais, de la valeur... et qui ne peut pas être une simple base américaine dans l'Indo-Pacifique. On a notre mot à dire, donc c'est normal qu'il ait fait ça.
Éric Diard, il a raison, Nicolas Sarkozy, de jouer collectif sur ce sujet évidemment explosif.
C'est un président de la République qui soutient le président de la République, c'est un ancien président, c'est normal qu'il le soutienne. Après, il va falloir voir un petit peu, on regardera quelles seront les contreparties. Quelle contrepartie va obtenir Emmanuel Macron ? Moi, je pense que c'est le plus important, parce que bon, ce contrat du siècle... il date de 2016, et il y a quand même eu quelque chose d'important, c'est un changement de majorité en 2018 en Australie. Et là, on me dit quand même que du côté des parlementaires australiens, il y avait quelque chose qui s'annonçait. Je ne pense pas que ça soit une surprise, mais je pense que le président de la République va devoir encore plus montrer les dents, parce qu'il doit demander des contreparties à cette perte qui est colossale.
Maxime Liédo, cette affaire, elle est le synonyme de quoi ? De la faiblesse de la France, finalement, sur le plan international ? Ce bras de fer avec les États-Unis, il est perdu d'avance ?
Pas forcément perdu d'avance, mais il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les conséquences qui sont françaises. Il ne faut pas oublier que l'entreprise qui était censée construire des sous-marins faisait appel à énormément de sous-traitants et beaucoup d'entreprises comptaient sur ça pour avoir 50% de chiffre d'affaires en plus. Ça, c'est évidemment sans exclure les salariés qui travaillaient, qu'ils soient australiens ou français, qui vont forcément avoir, on va dire, des mois qui vont être un peu difficiles ou du moins tourmentés. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a les conséquences européennes. Qu'est-ce qu'on va décider de faire ? J'attends une prise officielle de position de la part de Madame Angela Merkel. Ursula von der Leyen s'est positionnée en disant que la France avait été maltraitée, que c'était inadmissible, mais que va faire l'Allemagne ?
Tardivement,
certes, mais encore plus tardivement, c'est l'Allemagne qu'on attend toujours. Et la troisième chose, c'est est-ce qu'on va, dans les prochaines années, réussir à trouver notre place, seul avec l'Europe, dans le duel avec, si on peut le trouver, dans le duel avec les États-Unis et la Chine. Maintenant, j'aimerais dire quand même que quand Jean-Yves Le Drian parle de la fin de la naïveté, parce que c'est ce qu'il dit un peu à tout bout de tweets, d'articles et d'interviews, j'aimerais quand même rappeler que si on prend l'exemple de la Suisse, encore cet été, elle a pris le parti de commander, par exemple, des F-18 américains. L'Allemagne, l'année dernière, déjà en juin, a pris certes des avions européens, c'est ce qu'on appelle les fameux Eurofighters, mais elle a également décidé de commander énormément d'avions américains. J'appellerai également que ce n'est pas la première fois qu'on se fait enfler, pardonnez-moi le langage familier, par l'Australie. Entre 2004 et 2008, l'Australie avait commandé tout simplement des hélicoptères chez nous qui n'ont pas tellement été utilisés et ils se sont vus remplacés par des hélicoptères Apache, donc des hélicoptères américains. Et le tout, on nous oublie quand même que les États-Unis, alors que les forces américaines avaient opté pour des avions Airbus, du jour au lendemain, on n'a pas compris, grâce au forcing, ont finalement décidé d'acheter Boeing. Donc vous voyez l'espèce de naïveté, alors que ça fait quand même plusieurs années qu'on sait que les Américains, mais même d'autres forces, ont tendance à retourner leur veste pour une solution simple qui est préserver leurs intérêts. Il serait temps en effet qu'elles s'envolent.
On le réalise aussi. Louis Dragnel, le fait qu'Emmanuel Macron soit soutenu par Nicolas Sarkozy, il joue au PAC France évidemment, et au-delà, quelle est la capacité d'Emmanuel Macron à répondre à ce qui s'est passé avec les États-Unis?
En réalité, c'est pas très simple. C'est-à-dire qu'il y a des réponses de court terme et puis il y a d'autres à long terme. Parce que si on veut vraiment faire de la France, qu'elle a toujours été une puissance, en tout cas qu'on redevienne une puissance, ça nécessite des vrais investissements à long terme. Notamment, ça peut passer typiquement par la construction de bases dans la zone Indo-Pacifique, avec la présence de bateaux, avec des bases aériennes. D'ailleurs, l'été dernier, c'est peut-être un des symptômes aussi des tensions qui se produisent dans cette zone. C'était la première fois qu'on n'avait jamais envoyé la France depuis une quarantaine d'années des avions de chasse français survoler cette zone. On avait envoyé un sous-marin nucléaire, on avait envoyé des bâtiments de guerre pour montrer aussi nos capacités de déploiement. Donc typiquement, c'est ce genre de choses qu'il faut reproduire, mais pour pouvoir le reproduire, il faut avoir ces capacités. Donc forcément, ça passera par une volonté d'investir davantage dans le budget des armées. Et ça, je pense que pour le coup, il n'y aura pas de débat là-dessus. Ensuite, à très court terme, pour l'instant, on est dans des mesures extrêmement symboliques. Le rappel d'ambassadeur, ça fait pleurer personne. Personne n'a mal quand on rappelle un ambassadeur. C'est quelque chose de très symbolique. On était obligé de faire ça comme première étape, mais on ne peut pas se satisfaire de ça. Ensuite, il faut taper peut-être au portefeuille. Et c'est la réflexion qui est en cours en ce moment à l'Élysée, avec notamment la question de la renégociation ou de la rupture de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. Mais le problème...
Il y a beaucoup de sommes en jeu.
Il y a un gros volume. Je n'ai pas encore eu le temps de suffisamment creuser ce sujet-là. En tout cas, je peux vous parler de la complexité de ce sujet. C'est que comme on a une Europe qui n'est absolument pas politique, l'enjeu, c'est d'essayer de mobiliser le plus possible de chancellerie, de capital derrière la France.
Et vous disiez tout à l'heure, et ce qui était surprenant dans le journal de 19h, que la France avait du mal à avoir ses partenaires européens autour d'elle.
Mais pourquoi?
Mais c'est quand même surréaliste.
Mais cher Laurence, vous savez pourquoi? Comment est-ce qu'on peut convaincre des pays d'Europe de l'Est pour qui l'unique menace, c'est la Russie. Ils ont besoin du bouclier américain pour des raisons de survie.
Ils ne veulent pas bouger vitale. De l'OTAN, évidemment.
Et donc, en fait, pour eux, si vous voulez, l'histoire de contrats de sous-marins, quel que soit le montant pour la France, mais ce n'est absolument pas leur sujet. Et c'est une illustration qui montre, je trouve, toute la difficulté, la complexité de faire une Europe politique. Moi, pour moi, c'est pour ça que ça n'existera jamais, en fait. Il n'y aura jamais d'Europe de la défense. L'Europe de la défense, en fait, c'est l'armée française. Ça a toujours été l'armée française, ça n'a jamais été une autre armée. On est la seule puissance nucléaire aujourd'hui en Europe. Et du coup, en fait, la difficulté, c'est que compte tenu des intérêts stratégiques qui sont divergents en fonction des pays, eh bien, on aura beaucoup de mal, en fait, à obtenir un consensus, voire, c'est encore plus difficile d'obtenir l'unanimité, sur la dénonciation de ce contrat, pour la raison qu'on vient d'expliquer, à savoir le besoin de protection par les États-Unis de beaucoup de pays de l'Union européenne. Et même, vous parliez tout à l'heure, très justement, de l'Allemagne. L'Allemagne a besoin... cruellement des Américains. Et on voit dans toutes les affaires d'espionnage à quel point l'Allemagne est dépendante, voire mise complètement sous tutelle des Américains.
Voire écouter directement sur son portable.
Exactement. Et donc face à ça, si vous voulez, c'est quand même très compliqué. Et juste une dernière chose, et promis après j'arrête, on entend depuis plusieurs jours, c'est horrible, on a mal, on se fait pas ça entre alliés. Mais en fait, les Australiens sont aussi des alliés des Américains. Les Australiens sont des alliés des Britanniques. Il y a le Commonwealth. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important chez les Britanniques que un attachement qu'ils n'ont plus d'ailleurs à l'Union européenne en raison du Brexit.
Bruno Bonnel, un petit mot là-dessus.
Juste un mot rapide pour dire attention de pas de tomber dans le piège de réduire ça à un accord commercial rompu. Parce qu'on parle beaucoup d'argent, on dit combien ça fait d'argent et combien ça fait effectivement d'emplois. Et je le regrette évidemment, mais c'est pas ça. C'est un basculement du monde dans lequel on commence à entendre des petites musiques en disant c'est un affrontement entre deux continents, la Chine et les États-Unis, sur un terrain d'opération qui n'a rien à voir avec eux. C'est la question de Taïwan. C'est forcément à un moment donné la question de la Corée du Nord qui continue de s'armer. En fait, on est en train de basculer, et c'est un peu ça qui m'inquiète, en train de basculer dans un monde où 70-80 ans de paix entre alliés. Et là, on commence à entendre parler de choses d'armement, de guerre, donc de risques objectifs de conflit.
En fait, voilà. Ce qu'on n'a pas compris, C'est que nous, avec notre démocratie et la culture, la diplomatie des droits de l'homme qu'on avait, notre diplomatie, c'était les droits de l'homme pendant 20 ans. Et là, en fait, on bascule dans la défense d'intérêts stratégiques et on fait face à des logiques d'empire. Et par rapport à ça, il y a un besoin d'armement moral aussi et de prise de conscience de ça.
On fait une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant et on continue à parler de cette crise des sous-marins français. À tout de suite dans Punch.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Maxime Liedo, Louis Dracnel, Bruno Bonnel, Éric Dia. Maxime Liedo, on évoquait la zone Indo-Pacifique où visiblement les plaques tectoniques bougent. Où il y a une course à l'armement entre l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Australie. La France, encore une fois, est un tout petit acteur de cette zone.
Tout petit acteur, et c'est d'ailleurs la question, une fois de plus, des prochaines années, si on essaye de voir un peu cette anomalie ou cette rupture de contrat au long cours, c'est de se dire, quand bien même l'Europe ne serait pas d'accord, elle ne peut pas être politique, elle ne peut pas être militaire, si l'Europe de la défense, quand bien même dans 6 mois, la France préside le Conseil de l'Union européenne, si dans quelques mois, on n'arrive pas à se mettre d'accord autour de ce sujet, est-ce qu'on a encore le moyen de peser entre tous ces empires, comme le qualifiait très bien Louis Drian, je pense pas. Et ensuite, il y a un autre sujet, il faut quand même réaliser, et c'était un peu la discussion qu'on avait en off sans tout révéler, c'est-à-dire que quand bien même on aurait eu le droit et on aurait eu le contrat jusqu'au bout signé avec l'Australie sur ses sous-marins, je rappelle que le responsable et ceux qui construisent les turbines nucléaires pour les sous-marins, c'est l'entreprise Alstom. L'entreprise Alstom a été vendue à General Electric, c'est-à-dire aux Américains, lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie et qui disait parfaitement on a le droit de vendre nos entreprises, ici c'est pas le Mexique. Donc, quand bien même ce contrat aurait été jusqu'au bout, on se serait quand même vu avec des questions sous les bras monumentales en termes de souveraineté.
Éric Diard, les Républicains.
Moi, j'avais rencontré il y a deux ans et demi, l'ambassadeur australien en France qui nous disait « Bon, la France, vous existez, vous avez la Nouvelle-Calédonie, ne nous laissez pas tomber.
Oui.
Nous sommes assez tétanisés par l'hégémonie chinoise. »
Il y a un référendum aussi, très prochainement
en
décembre,
Nouvelle-Calédonie, sur l'indépendance. On était déjà au précédent référendum, ils étaient assez inquiets. La Nouvelle-Zélande également partage cette inquiétude. Et je crains que l'Australie a dit « Bon, ben, on va se mettre sous le parapluie américain face à cette hégémonie chinoise dans cette zone du Pacifique. » Je le crains.
On va évoquer un autre sujet à propos d'Emmanuel Macron toujours. On a remarqué qu'à chaque visite de terrain qu'il faisait, eh bien le carnet de chèques était ouvert en grand. Si on totalise, ça se monte à quelques milliards d'euros en à peine quelques jours. Il y a une petite fourchette qu'on n'a pas encore évaluée. On va voir ça avec vous, Victor Chabert. Expliquez-nous tout.
Oui, Laurence, 1,5 milliard pour Marseille, ensuite 600 millions d'euros pour les agriculteurs, puis 500 millions pour le Beauvau de la sécurité, ou encore des fonds pour les indépendants, pour la SNCF, pour la pêche. Coût total des annonces d'Emmanuel Macron en 3 semaines, 3 milliards 150 millions d'euros, auxquels on peut ajouter ceux de Jean Castex avec le chèque énergie et ceux des autres ministres avec le remboursement de la pilule ou le soutien aux frais de ferroviaire. Si on intègre le prolongement de MaPrimeRénov', déjà prévu en juillet, confirmé à la rentrée, on dépasse les 6 milliards 300 millions d'euros d'aide annoncés par l'exécutif depuis le début du mois. De son côté, Bercy prévoit 11 milliards d'euros supplémentaires de dépenses courantes au budget 2022. Cela pourrait être plus. On parle de 17 milliards car le gouvernement doit encore rendre des arbitrages sur son plan d'investissement et sur le revenu d'engagement pour les 16-25 ans. Deux chiffres sont particulièrement scrutés, le déficit pour l'instant prévu à 4,8% en 2022 et la dette publique qui atteindrait 114% du PIB. De quoi agiter les débats à l'approche de la campagne présidentielle.
Merci beaucoup Victor Chabert. Ça donne le tournis, Bruno Bonnel, député de La République En Marche. Vous allez aller jusqu'où? Est-ce que vous cramez la caisse, comme l'a dit un peu trivialement Valérie Pécresse? Est-ce non, que c'est ça le but? Allez, on dépense sans compter parce qu'on veut se faire réélire, hein, c'est ça?
Non mais bon, de toute façon, c'est le piège dans lequel tombe chaque gouvernement dans une année de réélection. Soit on engage des dépenses et on dit c'est l'électoralisme, soit et on les engage pas et on dit ils donnent pas de moyens. Donc il y a un moment donné, il faut quand même trouver un équilibre.
Non mais attendez, là vous y allez gaiement, hein.
Toutes les dépenses qui ont été tout ce qui a été proposé sont des choses qui sont nécessaires. On voit bien à cette relance. Non mais là-dessus, il faut mettre en regard les espérances de croissance qui sont prévues. Non mais on peut en débattre tout à l'heure. On en sait rien.
C'est à la fin de la foire
qu'on fera les comptes.
Louis Dragnel et ensuite Maxime.
Mais après, on peut aussi parler franchement. C'est-à-dire que bien sûr, non mais en soi, il y a tellement de besoins en France qu'on pourrait satisfaire toutes les demandes et se dire bon ben voilà, il y a un besoin, on y répond et c'est le rôle d'un élu après tout de répondre à des besoins. Sauf que enfin la première chose par rapport à ce que vous Laurence vous évoquiez, Valérie Pécresse et sa phrase sur on vide les caisses. Le problème c'est qu'on vide même pas les caisses puisque les caisses sont déjà vides, elles sont creuses, elles sont complètement percées. Donc ça c'est en fait on passe du quoi qu'il en coûte généralisé à du quoi qu'il en coûte très ciblé et donc chaque semaine ou même parfois tous les trois jours, il y a des annonces nouvelles, effectivement, de crédits supplémentaires. Ensuite, je pense que dans les annonces budget, des annonces de crédits, il faut quand même faire la part des choses, distinguer de l'argent qui, de toute façon, était prévu, de l'argent qui est injecté à partir de rien et qui est effectivement pas financé et qui n'engage pas énormément dans la mesure où, après l'élection, après 2022, si c'est un autre président qu'Emmanuel Macron, bien, il aura pu promettre ce qu'il veut, comme il n'est plus président. Bien, c'est pas grave si l'argent n'est pas délivré.
Maxime Liedo.
Il y a deux chiffres. Il y a en effet le chiffre alarmant. Il y a les plus de 120% de dette, alors qu'on avait promis au début du quinquennat des Marcon la maîtrise des.
Il s'est passé d'autres
si on s'arrête sur le Covid, je suis totalement d'accord. Seulement, si on regarde attentivement les dépenses, il y a quand même 54 milliards de dépenses supplémentaires hors crise. Juste de 54 milliards de trucs courants, parce qu'on a augmenté les budgets de tel ministère.
Mais il n'y a pas eu que la Covid. Les gilets jaunes, il y a beaucoup de choses.
Oui, mais justement, donc moi, ça
m'a empêché la croissance, qui ont bloqué les entreprises, le commerce.
Vous me tendez la perche parfaite par rapport aux gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, on a donné de l'argent, on a fait un certain chèque conséquent, certes, mais on a quand même expliqué 17 milliards, d'accord.
C'est
pas rien, mais quand on a passé quand même le reste de la crise à dire aux gens qui disaient en quelque sorte oui, mais vous comprenez, nous on galère, le travail paye pas, on a des gosses, on a du mal à payer quand il est loyé, on disait oui, mais vous comprenez, on peut pas tellement faire que des chèques parce qu'on n'a pas de l'argent. Là, ça donne quand même un peu le tournis et ça fait peur. Et ensuite, si on veut essayer de non pas de se comparer, mais d'essayer de voir que notre pays est quand même un peu à la rue. On va se comparer à ce qu'on peut, c'est-à-dire un peu l'Europe. Je rappelle que notre déficit de commerce extérieur est immense comparé à l'Allemagne, que notre dette est beaucoup plus creusée et on est endetté beaucoup plus que tous les autres pays européens, ce qui est aussi un vrai sujet. Et donc que tout ça va, au bout d'un moment, à force de faire des chèques, poser la question ou faire croire à tout le monde qu'on peut dépenser sans compter. Et ça, à mon sens, pour les années à venir, c'est très très grave, surtout avec les menaces d'inflation qui arrivent.
Éric Diard, Les Républicains.
C'est surprenant, c'est vrai que c'est une frénésie. Moi, j'y perds mon latin. Un jour, c'est les harkis, un jour, c'est les libéraux. Après, je ne critique pas, il y a des mesures qui sont très intéressantes. Après, il y a des mesures en trompe-l'œil. Je vous donne un exemple. Quand on parle de 1,5 milliard pour Marseille, attention, il y a 750 millions, c'est une avance sur crédit. C'est-à-dire, pendant 40 ans, c'est un crédit à taux zéro. Mais donc, on ne donne pas 750 millions. Mais c'est un effet d'annonce. Donc, moi, je suis un petit peu perdu. C'est vrai qu'on dépense, c'est une politique à coup de chèque, parce qu'on arrive à près d'une échéance. Mais je ne sais pas. Autrefois, on disait, ben voilà, il y a telle dépense, en face, où vont être les recettes. Aujourd'hui, on ne parle que de dépenses. On ne parle plus du tout de recettes. Mais, et c'est ça la différence avec la politique d'avant.
Maxime, Bruno Audet, La République En Marche.
D'une croissance estimée de 6 ou 7% cette année.
Qui revient à la baisse aujourd'hui, par
exemple. Mais non, marginalement. Mais la dynamique, c'est vraiment un changement de logique. Ce que vous appelez des dépenses, c'est d'abord des choses qui sont nécessaires pour la police, pour la sécurité des Français notamment, pour la santé. Donc ça, c'est logique. Et puis, il y a des investissements. Marseille, moi, je ne suis pas marseillais, je suis lyonnais. Dieu sait si entre Marseille et Lyon, on a des différences, notamment footballistiques. Il n'empêche que mettre 1,5 milliard sur Marseille, c'est faire un pari sur cette ville stratégique de demain. Donc il faut arrêter de dire... Non mais, on fait 750 millions d'emprunts qui va permettre quand même de faire quelque chose dans cette ville. Ça ne va pas ne pas avoir d'impact, ce n'est pas vrai, il va y avoir un impact.
La ville est déjà très endettée, la métropole a beaucoup d'endettement, donc c'est difficile de demander ça.
Ce que je veux dire, c'est que c'est un changement de logique dans lequel on se dit, il faut qu'on injecte de l'argent, comme on le fait sur le plan de relance, 100 milliards, comme on le fait maintenant sur le plan d'investissement, qui est la suite du plan de relance, 30 milliards, pour dire qu'il faut continuer à garder la dynamique de la croissance. Parce que ce qui perd à la dette, Et ce qui remboursera ces fameuses dépenses de demain, c'est la croissance.
Un tout petit mot, Maxime.
C'est la croissance. Si en effet, pour notamment l'année prochaine, jusqu'à l'année prochaine, on peut tabler sur 6% de croissance, après ça s'écroule. Et c'est d'ailleurs ce que disent tous les économistes. Mais parce que justement, la relance n'est pas au rendez-vous. C'est ce qu'on dit encore hier dans les Échos.
Il y a 240 milliards d'épargne chez les Français. Ils vont bien faire quelque chose à un moment donné.
Oui, je crois 157 milliards, je crois, d'épargne exactement.
Pas pendant la Covid, 240 milliards d'épargne.
Mais on sait très bien que si c'est notamment les plus riches qui épargnent, ils ne le mettent pas dans l'économie, ils le gardent. Et dans les ménages les plus modestes, on ne sait pas vraiment s'ils vont le dépenser. Et donc ensuite, dans les trois années à venir, il me semble que c'est la Banque de France qui a fait les estimations, on voit qu'en 2022 et en 2023, on descend à 2,3 et puis à 1-2% de croissance. Donc est-ce qu'on va miser autant d'argent sur finalement un laps de temps aussi court pour que dans les 2-3 ans, ce soit du pognon gâché en l'air et un pognon de dingue gâché? Là, j'en suis un peu moins certain.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On évoquera l'entrée hypothétique d'Éric Zemmour en campagne. Un sondage Harris Interactive le donne aujourd'hui à 11% d'intention de vote. On l'écoutera dire que la France est le pays le moins raciste du monde. A tout de suite.
18h, 20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on se pose la question, qui a prononcé cette phrase ? La France est le pays le moins raciste du monde. Vous avez la réponse ? Éric Diard, Les Républicains ? Allez, je vous aide. Éric Zemmour, il était mon invité ce matin sur CNews. On va écouter le polémiste, toujours pas candidat, pourtant crédité de 11% dans les intentions de vote dans un sondage interactif, au même niveau que Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il crée la surprise de ce début de campagne présidentielle ? On écoute d'abord ce qu'il a à dire et on en débat.
Je pense sincèrement que la France est le pays le moins raciste du monde. C'est le pays le plus accueillant du monde. Il faut arrêter jeter la pierre et de la culpabiliser. Les Français sont le peuple le moins raciste du monde. Ils sont le plus humanistes, même d'ailleurs trop parfois. Ça se retourne contre eux. On en profite de leur humanisme. Moi, je leur dis, soyez humanistes, mais ne soyez pas humanitaristes. Soyez forts. C'est ça le message que je leur dis. Vous êtes l'héritier de une des plus belles cultures de l'humanité. Défendez-la.
Éric Diard, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Éric Zemmour ?
Je ne pense pas que la France soit le pays le plus raciste du monde, mais de dire le moins raciste du monde, je ne pense pas qu'il soit...
C'est-à-dire qu'il accueille beaucoup.
Voilà. Oui, bien sûr, mais de dire que c'est le moins raciste du monde, je pense qu'on n'a pas tous les éléments. Il faudrait vraiment peser le pour et le contre. De dire que la France... Je ne pense pas que la France soit un pays raciste. On a le droit de partager l'avis d'Éric Zemmour sans pour autant partager ses autres idées. Quoi.
Maxime Liedo, je vois faire d'autres lignées de la tête.
Oui, parce que le drame de cette époque, c'est quand même qu'on est partagé dans le débat politique entre l'extrémisme d'Éric Zemmour et la radicalité de Sandrine Rousseau. Et je trouve ça un peu exaspérant. Évidemment que la France n'est pas un pays qui est foncièrement raciste, mais on a quand même régulièrement dans l'actualité la preuve que certaines personnes dans les institutions les plus honorables de la République ont des dérapages qui sont inacceptables. Ensuite, est-ce qu'on doit faire un débat sur est-ce que la France accueille bien ? Je ne suis pas sûr qu'elle accueille bien tous ceux qu'elle accueille. Est-ce que la France traite parfaitement tous ceux qu'elle accueille, même en temps avec le statut de réfugié politique ? Je n'en suis pas certain.
La question que pose Éric Zemmour, c'est est-ce que la France n'accueille pas trop ?
Alors sincèrement, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat.
C'est celui qui pose.
Éric Diard, ensuite Bruno Bonnel. Le président de la République à Marseille a dit la France s'accueille trop, mais pas assez bien. Donc on n'intègre pas assez. Il nous l'a dit avec les petits parlementaires en mairie de Marseille, quand même.
D'accord. Bruno Bonnel, La République en Marche.
Je suis ravi de ce qu'il dit, parce qu'il commence à se prendre les pieds dans le tapis. Alors, il faut être humaniste, pas humanitariste, qui est un néologisme nouveau dans la Zemmourland, c'est un truc intéressant. Et puis, il commence à dire, bah oui, alors on fait des câlins aux gens parce qu'il faut les attirer, puis en même temps, faut pas qu'on en attire trop. Enfin, M. Zemmour montre ce qu'il est. Il est un polémiste qui fait du buzz et qui, effectivement, à 11% dans les sondages, je vous rappellerai que dans d'autres élections, il y a bien longtemps, on avait même des humoristes qui se présentaient. Et s'il y avait eu la même sophistication des sondages à l'époque, il serait probablement à ce moment-là de l'élection à 11%. Il y a un moment donné, qui va être capable de diriger la France. Et moi, je respecte totalement les oppositions là-dessus. Il y a des candidats que je vais qualifier de sérieux, capables, entourés, parce qu'on ne fait plus une politique tout seul. Et puis, qui fait du buzz pour vendre un bouquin qui, d'ailleurs, fait du Trump en petites chaussettes, quoi.
Vous l'avez lu ?
Non, je ne l'ai pas lu, je ne le lirai pas, d'ailleurs. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Ce que j'en entends, les résumés me suffisent.
Louis de Raguenel, le phénomène Zemmour, il existe dans les sondages. Après, évidemment, toute la question, c'est est-ce que c'est une bulle dans les sondages et est-ce qu'elle va éclater ?
Exactement, c'est la question que tout le monde se pose, mais en tout cas, même si c'est une bulle, je peux vous dire que ça fait peur à tout le monde.
Il y a pas, moi.
Il n'y a pas un camp qui... quand on parle en privé, même avec des ministres, voilà, c'est un phénomène qui regarde avec au moins un peu d'intérêt et parfois un peu d'inquiétude. Parce qu'en fait, alors après, on ne va pas jouer aux alchimistes, mais si vous voulez, si Éric Zemmour monte trop et par exemple Marine Le Pen baisse et qu'il la fait vraiment chuter, eh bien le risque pour Emmanuel Macron, c'est par exemple de faire monter un Xavier Bertrand ou une Valérie Pécresse. Et là, pour le coup, ils ont une peur bleue parce que Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Donc voilà, ça fait aujourd'hui, tout le monde regarde avec cette espèce d'objet politique non identifié. C'est assez amusant d'ailleurs d'écouter, de voir comment les uns et les autres réagissent. Mais on voit que tout le monde, on constate, hein, il grappille à tout le monde. Il mord un peu à La République En Marche. Il mord beaucoup aux Républicains. Il mord beaucoup à Marine Le Pen. Et donc voilà, on va voir si la bulle se transforme en vrai effet. Mais moi, je constate juste une chose, au-delà du fond et tout ça, il y a une forme un peu de parallélisme quand même, pas à tout point de vue, mais quand même, avec un certain Emmanuel Macron. En 2016, ça vous dit rien? Mais si, qui part tout seul, mais qui va faire.
Mais ça n'a rien à voir.
Il n'a pas de parti.
Il est ministre de l'économie. Jusqu'à là, on avait un débat qui était relativement sérieux. Mais là, on tombe dans le délire. On se zémorise. On se zémorise.
On va faire la politique.
Non, non, mais sérieusement.
Mais si, mais il y a des choses assez intéressantes. Chacun dans son couloir de nage. Mais Emmanuel Macron en 2016, mais non, je ne serai pas président. Il va voir François Hollande, je ne serai jamais. Mais non, je trouve que c'est intéressant. Il crée un parti de jeunes en disant « Mais non, mais je ne les connais même pas, à peine s'il les a vus. » Alors qu'en fait, on sait très bien qu'il les voyait à Bercy. Tout était organisé. Puis ensuite, il y a comme ça un soulèvement de personnalités de la société civile qui émerge spontanément, qui demande Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, l'air de rien, ministre de l'économie, va au Puy du Fou chez Philippe de Villiers pour faire une petite photo. Et puis,
il faut dire qu'il est pas socialiste,
surtout. Et toujours ministre de l'économie, il va commémorer Jeanne d'Arc à Orléans. Non, non, surtout, attention, il ne faut rien y voir de politique.
Et donc, Éric
Zemmour, moi, ce que je vois, c'est qu'il fait un peu la même chose. Mais non, il connaît parfaitement le monde médiatique, il connaît parfaitement le monde politique. Voilà, et donc, il joue sur le côté « je ne suis pas candidat, je vends des bouquins ». Alors, tout le monde sait qu'il sera candidat. Tout pousse à penser qu'il est candidat. Il a une équipe de campagne, il a des gens qui viennent chercher des parrainages, il y a des gens qui lèvent des fonds. Si après, on n'est pas candidat, voilà. Et même dans les prochains jours, vous verrez, il y a des politiques qui vont le rallier.
D'accord. Ah, déjà.
À partir notamment de demain matin, on verra demain matin.
Et donc, Louis, vous ne pouvez pas nous faire le coup, dites-nous qui. Philippe de Villiers.
C'est assez amusant. C'est la première fois, moi, que je vois en tout cas quelqu'un qui n'est pas candidat, qui reçoit le ralliement d'un politique dans la perspective de la présidentielle. C'est du jamais vu.
Maxime, on écoutera demain matin.
De se poser la question, comme dit Bruno Monnel, de savoir s'il peut diriger le pays, avant tout ça, avant le résultat de l'élection, il y a quand même une campagne. Et à mon sens, ce dont on devrait se préoccuper prioritairement, c'est de savoir jusqu'à quand Éric Zemmour va monopoliser les thèmes de la campagne. Parce que pour l'instant, c'est ce qu'il arrive à faire. Bien sûr qu'il y a des questions légitimes sur...
Jusqu'à quand, en fait, c'est lui qui les pose.
C'est bien le problème. C'est
jusqu'à quand, en fait, il n'y a pas de deadline. Hein. Enfin,
il n'y a pas de deadline.
Oui, ça peut durer jusqu'à la fin.
Il y a un moment ou un autre, il va aussi falloir faire l'autocritique du monde et politique et journalistique, arrêter de commenter et de demander le commentaire du commentaire de la phrase d'Éric Zemmour. On en fait quand même tout un cinéma qui est, à mon sens, un tout petit peu excessif.
Contribue à le faire monter dans les sondages.
Mais bien sûr, parce qu'on sait bien que quand bien même il représente un petit truc, son évolution dans les sondages correspond quand même à la bulle médiatique qu'on crée autour de lui. Et la dernière chose, c'est qu'on ne peut pas nier que s'il pose des questions intéressantes sur qu'est-ce que la France aujourd'hui, la perte des valeurs, le déclin peut-être de cette dernière, il ne faut pas oublier que c'est quand même très loin des préoccupations des Français. Quand on regarde notamment la dernière institut de sondage qui sort les préoccupations des Français, c'est l'Institut Jean Jaurès, c'est, alors il y a l'écologie, mais il y a surtout le pouvoir d'achat et l'avenir de leurs enfants.
Et là-dessus,
donc vous voyez ce que je veux dire.
Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à proposer.
Mais il y a l'immigration, la sécurité aussi.
Qui arrive quand même bien en bas de des longues dernières. En fait. L'Institut IFOP, par exemple, la dernière fois, et même l'Institut Jean Jaurès, qui ne sont pas non plus les pires gauchistes de ce pays, même s'ils sont un peu plus à gauche que à l'heure actuelle, par exemple, c'est quand même des préoccupations qui inquiètent. Et on le voit aujourd'hui avec la crise, la priorité, c'est pas « Mon Dieu, est-ce que je vais... est-ce que mon enfant va... »
Il y a quand même la question de la sécurité, qui n'est pas très loin de la question de la santé.
Non, mais elle est essentielle, mais il y a aussi beaucoup des questions économiques.
Éric Diard, le dernier mot de l'émission.
Il est candidat. Moi, j'ai vu Sarah Gnafo depuis 2 ans.
Alors, c'est la jeune femme qui travaille avec lui.
Oui, ça fait 2 ans qu'elle tourne à l'Assemblée, que je la vois dans les établissements, dans les cafés, pour essayer d'attraper des attachés parlementaires, boire un petit coup avec eux. Et elle y était tous les mardis soirs, pendant 1 an, elle était là. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il est candidat, tout le monde le sait, mais tant qu'il n'est pas candidat, il sait qu'il fait le buzz et ça lui permet de monter. Alors,
parce que vous croyez qu'il ne fera pas le buzz une fois qu'il sera candidat ?
Je pense que non, ça retombera une fois qu'il est candidat. Une fois qu'il aura fait candidat, il ne passera pas dans le même monde, je pense. Il passera de polémiste à politique. Moi, je fais mienne la phrase de l'historien Jacques Julliard. Écoutez ses avertissements en parlant de Zemmour, ne pas suivre ses conseils.
Bon, écoutez, Louis Dragnel.
Et une chose aussi, c'est qu'une campagne présidentielle, alors nous en tant que journalistes, on suit, mais on ne les vit pas, on n'est pas nous-mêmes en campagne, mais on voit à quel point c'est harassant, c'est dur, tout est épluché, vous êtes décortiqué dans tous les sens, c'est quand même des difficultés, tout le temps, il faut avoir une énergie. Et c'est vrai que c'est une chose de faire plein de débats, de participer à des séances de dédicaces, c'en est une autre de rentrer dans l'arène, de ferrailler, il faut avoir une résistance psychologique,
par exemple,
physique,
de faire un débat physique, énorme, deuxième tour. Du commun. c'est de réussir un débat du deuxième tour, par exemple, oui. c'est une belle épreuve.
Souvenir de 2017, voilà. Peut-être.
Pour rappeler un petit peu qu'il y avait des candidates annoncées qui se sont écroulés.
Elle était présente au second tour.
Présente, et effectivement, encore une fois, il faut quand même avoir une palette très large de compétences pour diriger ce pays qui est un pays complexe.
Maîtriser ses dossiers, effectivement, voilà. Et pas seulement quelques dossiers spécifiques, Éric Diard.
Non, évidemment. Donc on verra. Le jour où Éric Zemmour sera candidat...
Il vous fait peur quand même au Républicain.
Non, il ne me fait
même
pas peur.
Même pas mal.
Non, je ne dis pas peur. Non, il ne fait pas peur. Moi, il est toujours dans son rôle de poil à gratter, de polémiste. Et je pense qu'il faut voir cela durer. C'est normal, vous êtes sur une présidentielle, vous avez des candidats. C'est normal que vous ayez des candidats qui se rapprochent de votre sensibilité politique.
C'est pas comme si les Républicains avaient du gras ou une marge énorme, une avance très importante.
Oui, mais enfin, je veux dire, il fait plus peur. Non, tant mieux, il ne faut pas avoir trop de gras.
Merci à tous les quatre, Louis de Grandel, Bruno Bonnel, Éric Diard, Maxime Yedo ont participé à cette émission de Punchline. Merci à vous. Bonne soirée sur Europe 1. Tout de suite, Stéphanie Loire pour Musique. À demain 18h pour Punchline.